France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est bon.
Comment on pourrait définir ce personnage du chef Alexandre Gauthier? Un artiste, un utopiste qui arrive à embarquer ses équipes un peu comme un capitaine de navire dans ses aventures, ses tempêtes aussi.
S'il y a bien quelqu'un qui peut sublimer les plantes, c'est Alexandre et son équipe. Une équipe nombreuse, régulière.
Sa façon de créer des restaurants, non pas pour lui, mais pour garder les gens autour de nous et puis être dans cette générosité et cette opulence sans jamais être mercantile et presque s'oublier, mais tout ça dans un écrin qu'est la Grenouillère et qu'on fait vivre tous les jours et qu'on habite.
Bon, il est aussi un peu exigeant, mais ça, j'ai pas trop le droit de le dire.
Un peu quoi?
Un peu exigeant.
Bonjour à toutes et tous. Merci, cher public, d'être à nos côtés dans le studio 621 de la Maison de la Radio pour notre traditionnel rendez-vous avec de grandes signatures de la gastronomie. Après, Anne-Sophie Pic, Philippe Etchebest, Jean-François Piège, Olympe Versini, Emmanuel Renaud, Hélène Darroze, Pierre Gagnère et Régis Marcon, l'invité de la 9e masterclass dont va déguster est, disons-le tout de suite, le chef chouchou de très nombreux gourmets français et étrangers. Il a 46 ans, il est au fourneau de la Grenouillère, sa table gastronomique 2 étoiles Michelin et 1 étoile verte à la Madeleine sous Montreuil dans le Pas-de-Calais. Et il anime un étonnant écosystème de tables plus populaires. Il entraîne dans son aventure humaine de nombreux talents qu'on entendait d'ailleurs, hein, Camille Geneviève, André Loher, Alix Marquand, on va en parler ensemble, de nombreux talents, disais-je, des cuisiniers, des sommeliers, des chefs de rang, des artisans, des producteurs, on le dit, perfectionniste, humaniste, engagé et parfois donc exigeant. Alexandre Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes exigeant?
Oui, je pense. Oui. Malheureusement, s'il le dit, c'est que ça doit être la vérité.
Exigeant, on verra ce que cela signifie. On va vous cuisiner, cher Alexandre, à petit feu, pendant une heure, avec des questions, des archives, des dégustations surprises, la fameuse séquence de la plaque de cuisson à laquelle vous allez vous prêter, sans oublier les temps d'échange que vous ont concocté nos deux chroniqueurs abonnés à l'exercice, Elvira Masson et Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à tous.
Et puis, petite nouveauté dans ces masterclass, Alexandre Gauthier, notre complice François Simon, viendra mettre son grain de sel. Comme notre critique gastronomique tient à son anonymat, on a préalablement enregistré les questions qu'il tient à vous poser. Cher public, on vous invite à interagir dans cette émission. Nous avons besoin de volontaires pour participer à nos dégustations. Cette masterclass est réalisée par Laurent Thomas avec Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. À la technique, Céline Guéribi et Corentin Rouchy pour les prises de vue vidéo, Didier Mariani et Xavier Chocron. Pour retrouver nos masterclass et tout leur contenu, recettes, bonnes adresses, vidéos, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster. Alexandre Gauthier, je vous propose un petit flashback. Il y a 2 ans, c'était en novembre 2023, quasiment jour pour jour.
Les masterclass qu'on va déguster sur France Inter.
Le Pas-de-Calais n'en finit pas de prendre l'eau, le département reste en vigilance rouge, au cru. Les cours d'eau continuent donc de gonfler, notamment la Canche et ses affluents. Mathieu Darrier s'est rendu à Montreuil-sur-Mer où l'évacuation est devenue inéluctable pour certains habitants.
On n'a jamais vu ça, c'est exceptionnel.
C'est une catastrophe, c'est jamais monté autant. Jamais j'aurais pensé que ce serait monté comme ça. Quoi. C'est fou.
Il va y avoir la réouverture d'un lieu très important pour la cuisine française, la Grenouillère, du chef Alexandre Gauthier, situé à la Madeleine sous Montreuil, près de Montreuil-sur-Mer. Son restaurant réouvrira ses portes après près de 18 mois de fermeture suite à la catastrophe des inondations. Pour les chefs de ma génération, Alexandre Gauthier, c'est un personnage très important, c'est un franc-tireur innovant qui a imaginé une cuisine très personnelle et marquante. Et pouvoir retourner à la Grenouillère, ce bâtiment sublime imaginé par l'architecte Patrick Bouchain, ce sera à coup sûr un des temps forts de cette année. Non seulement pour moi, mais pour beaucoup d'autres qui sont très attachés à ce lieu puissant.
Alexandre Gauthier, vous avez sans doute reconnu Manon Fleury, qui est chef étoilé du restaurant Dattil à Paris, qui est accessoirement aussi chroniqueuse dans notre émission. On va déguster. Que s'est-il passé en novembre 2023? Une catastrophe.
Bah, le cours d'eau qui borde la Grenouillère, la Canche. n'a pas pu contenir toute cette eau et jour après jour, un jour, la digue a lâché et on s'est fait inonder. C'était jamais arrivé et l'eau est rentrée dans le bâtiment jusqu'à entre 40 et 60 centimètres. Donc ben voilà, ce qui est terrible, c'est que le jour même, c'est magnifique et le lendemain, c'est un peu la désolation, mais c'est le restaurant a fermé, on avait 6 mois de réservation devant.
Vous avez ressenti quoi, Alexandre Gauthier, devant votre restaurant totalement inondé, ravagé de la stupéfaction, de l'écœurement, de la tristesse?
Alors, tout bizarre que ça peut être, c'est plutôt maintenant que je réalise. Enfin, compte, j'ai tenu comme un chef de navire, finalement un capitaine de navire, à redresser la maison, à préserver ce qu'il y avait de plus important, l'équipe. C'était eux le trésor. Et après, au plus rapide, pour essayer de redresser une maison. Je suis quelqu'un d'optimiste et je pensais qu'en 6 mois, ça serait fait. Et j'ai mis 18 mois à redresser la baraque. Le problème de l'exigence d'une maison comme la nôtre, c'est qu'il faut obligatoirement être... revenir au même niveau. C'est qu'on peut pas revenir à moitié, c'est un coup à dégrader nos notes qu'on a dans les guides, à décevoir nos clients. Donc il fallait revenir au top. Et donc ça a été long à redresser.
L'ironie du sort, Alexandre Gauthier, c'est que les inondations qui ont englouti votre restaurant il y a 2 ans, en novembre 2023, c'était très peu de temps après avoir fêté vos 20 ans au fourneau d'un restaurant familial, parce que vous avez repris en 2003 la Grenouillère, qui était le restaurant de votre père Roland.
Exactement. Donc finalement, on n'a pas fêté l'anniversaire, mais on a fêté une réouverture.
Vous êtes décidément bien optimiste, parce qu'en 2003, vous avez effectivement repris le restaurant paternel à la Madeleine sous Montreuil. Vous l'avez propulsé dans le 21e siècle, avec l'architecte Patrick Bouchain, qui a imaginé ces spectaculaires chapiteaux de métal et de verre, ouvert d'ailleurs sur vos magnifiques jardins. Il y a également des huttes magnifiques, pleines de confort pour dormir. Inspirées d'ailleurs, je crois, des huttes de chasseurs à semi-enterrés.
Exactement. De la baie de Somme, de la baie de Canche. C'est vraiment quelque chose de traditionnel et de populaire chez nous, cette chasse au gibier à plumes.
Ce qui est paradoxal, Alexandre Gauthier, c'est que j'ai eu la chance et le privilège de m'attabler à la Grenouillère il y a quelques semaines. Et j'ai quand même constaté que vous étiez radieux. Il y avait une liberté, un épanouissement, une fécondité qui se dégageait de vos assiettes, comme si vous aviez, dans cette catastrophe survenue il y a 2 ans, puisé en fait de la force, voire de l'inspiration. Vous êtes revenu plus fort que jamais.
Mais surtout, j'ai pas cuisiné beaucoup pendant 18 mois. J'ai plutôt pris ma casquette de chef d'entreprise et d'essayer de redresser tout ça. Donc la cuisine m'a manqué. Moi, je regarde devant. La peur n'évite pas le danger, donc avançons. Et on a un collatéral finalement économique, c'est-à-dire que tous les gens à qui on serre la main, qui nous amènent des produits exceptionnels tous les jours, on n'a pas pu les faire travailler. Et donc finalement, on avait envie de travailler avec tout le monde, avec tous les produits possibles. Et donc, bon voilà, ça nous donne une opulence, si je peux utiliser ce mot, humble malgré tout, mais une créativité, plein de choses qu'on avait dans les carnets, sous les papilles, et qu'on a pu jeter dans les casseroles et après dans les assiettes.
On va bientôt rentrer dans le cœur de votre répertoire culinaire, notamment à travers quelques plats signatures qu'on va raconter ensemble, mais juste avant, une question, comme promis, de François Simon, qui nous a rejoint dans l'équipe dont on va déguster. Vous connaissez ce célèbre critique gastronomique ?
Très bien.
Qui préserve pourtant jalousement son anonymat.
Oui, bravo à lui, parce que c'est pas facile, hein, à notre époque.
Une première question que François Simon a spécialement enregistrée pour vous, Alexandre.
Bonjour Alexandre. J'ai eu la chance de vous découvrir lors de la passation entre votre père et vous. Et je me souviens d'une assiette où le produit était décentré dans un coin de l'assiette, comme par contestation à l'ordre ambiant. Elle était d'une belle bouderie. La rage, la colère, la rébellion ont-elles été un moteur fondamental à votre cuisine et aujourd'hui ? Contre quoi vous battez-vous ?
Contre quoi vous battez-vous, Alexandre Gauthier ?
Moi, je pense que je me bats pas, mais j'aime défricher, j'aime trouver des sentiers différents, j'aime la diagonalité, j'aime le fait d'aller à des endroits qui n'ont pas été encore explorés, trouver des produits du quotidien, qu'on connaît tous par cœur, qu'on a de façon récurrente année après année, parce que un terroir, un territoire, c'est aussi une répétition annuelle, saison après saison, de produits qui reviennent, et se dire 20 ans après, qu'est-ce que je fais cette année avec ces produits-là? François Simon a raison, je désaxe toujours beaucoup les choses. Bah ça, c'est plutôt un goût esthétique, j'aime pas la symétrie. C'est un truc qui m'agace un peu, moi, je sais pas, je trouve pas ça m'intéresse pas, et donc finalement, j'aime plutôt comme un peu une page blanche, quand il y a plus d'espace de lecture dans l'assiette, finalement, jouer avec les contours, jouer avec les frontières, jouer avec les lisières, qu'elles soient réelles dans la campagne ou dans l'assiette, et ben c'était, j'aime pas le mot signature, parce que ça veut dire que ça devient une marque de fabrique, mais en tous les cas, je sais pas si c'était les premiers, aujourd'hui c'est un peu fait école, mais en tous les cas, ça m'a toujours beaucoup interpellé, beaucoup intéressé.
Vous ne faites pas la même cuisine que votre père Roland, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez une cuisine beaucoup plus créative et avant-gardiste, on va le voir. Pourtant, il y a à la Grenouillère toujours ce moment où atterrit la vraie belle poêlée de grenouilles.
Ouais. Papa est né en 51, il a appris la cuisine comme moi 14 ans après, donc dans les années 65, et moi j'ai appris la cuisine dans les années 95, donc c'est quand même pas du tout les mêmes générations. On leur disait, faut tenir la recette coûte que coûte, et l'esprit de créativité était vraiment quelque chose, c'était malvenu quoi, à l'époque, même si papa déjà faisait beaucoup de cueillettes dans le marais.
Ah.
Alors les grenouilles, il y en a de moins en moins. On n'a plus le droit de les pêcher, il n'y a pas beaucoup d'élevage. Papa les faisait à l'ail au persil, nous on en fait toujours un petit peu, mais de façon pas dans ces énormes... Parce que moi j'aime bien ces images d'Épinal, c'est facile à pêcher une grenouille. Et donc finalement, ils en ont trop pêché, plus le réchauffement climatique, la pollution des marais, il n'y en a plus, il n'y en a quasiment plus. Donc finalement, nous on les cuisine meunière, jus de citron, crouton, un coup de sauce soja, un peu croustillante, on les fait griller, une soupe de grenouille avec les os, bon, voilà, il y a plein de sujets.
On les déguste avec les doigts, c'est un vrai régal, et vous avez réussi à obtenir les grenouilles d'ailleurs d'un éleveur français. Comment on appelle un éleveur de grenouilles, s'il vous plaît?
Ah, je sais même plus.
Un raniculteur.
Ah oui.
Raniculteur.
Raniculteur, absolument. Ouais. Et puis il y a parmi les nombreux restaurants que vous avez ouverts, Alexandre Gauthier, anecdote, une brasserie bourgeoise dans la commune de la Madeleine sous Montreuil, qui est finalement, on va le voir, une façon de rendre hommage à la cuisine de votre père.
Alors je suis Juliette Carlu, chef du restaurant Anecdote d'Alexandre Gauthier, où ici on travaille la cuisine réinterprétée du papa d'Alexandre Gauthier, qui est Roland Gauthier. Ça donne la côte de bœuf à la braise avec le Josper, le four Josper. Ça donne la bavette Angus, le calamar frit avec la sauce gribiche, traditionnelle sauce gribiche. Et après les poissons, on a le bar rôti, la lotte à la courge. Donc voilà, là on est sur les pleurotes, les pâtes fraîches avec le bar... Donc là, on aura la petite émulsion au beurre noisette qu'on viendra servir sur la lasagne de Bulot. Donc on a Lorraine en pâtisserie et Lou en plonge ici. Et moi-même chef, donc oui, c'est vrai que la parité est bien respectée. Donc c'est chouette.
Je m'appelle Lizzie, je suis directrice générale des restaurants d'Alexandre. En place, on est à l'intérieur comme si on était dehors. C'est sans réservation. C'est ouvert depuis le matin de 9h30 jusqu'à... On fait à manger jusqu'à 21h30. Même juste par exemple pendant les services du midi, si on veut simplement boire un verre, on peut rentrer, boire un verre, sortir. C'est un vrai moulin, un lieu très vivant.
C'est quoi les plats qui marchent le plus sur la carte?
Le plus, le Welsh, qu'on fait sans jambon. Donc ça, à chaque fois, on doit vraiment expliquer pourquoi. Parce que c'est vraiment la recette qu'Alexandre avait en tête de son enfance, où il mangeait toujours avec ses grands-parents dans un petit bistrot à Boulogne-sur-Mer. Et aussi beaucoup le fish and chips. Ça, les gens, ils adorent. Et après, on a un semainier de plats dits ouvriers. Ouvriers parce que ce sont des plats généreux, chauds. On a une 25-30 portions. Elles partent toujours le midi. Donc ça marche bien aussi.
Chers auditeurs, chères auditrices, allez vous attabler à Grand Place, un café populaire où je suis allé pour la première fois il y a quelques semaines au cœur de Montreuil-sur-Mer pour déguster un plat du jour à 12,50€, un croque-monsieur à 8€, un Welsh très généreux à 15€, incroyable, et un clin d'œil à Lizzie Girard Hernandez. On peut le dire, vous partagez sa vie, c'est votre compagne.
C'est ma compagne, tout à fait.
Et par ailleurs, elle a un rôle central dans votre activité de restaurateur, Alexandre Gauthier.
Si on veut se croiser un peu, il faut qu'on travaille ensemble.
Et dans votre galaxie, signalons qu'il y a également un petit mot de définition sur chacun de ces établissements. Donc on l'a vu, hein. Anecdote, ça c'est la brasserie avec les plats plutôt d'inspiration paternelle. Il y a Grand Place, ce fameux café avec des spécialités délicieuses. Il y a aussi Froggy's.
Oui, tout à fait. C'est mon premier restaurant finalement. Il a 18 ans, c'est une rôtisserie contemporaine, gourmande. Voilà, des tables d'hôtes, une broche.
Également à la Madeleine sous Montreuil. Hein.
À Montreuil-sur-Mer.
À Montreuil-sur-Mer, pardon.
Et des jolis vins. Voilà.
Il y a également des jolis vins dans une autre adresse qui fait partie de mes restaurants préférés en France. Vous me voyez venir ou pas? À Merlimont-Plage.
Ah oui, sur mer.
Sur
mer. Oh là, je sais. C'est votre chouchou, ça.
Ah là là. La brasserie de la mer idéale dont tout le monde rêvait.
Merci.
Non, mais c'est pas merci, c'est que c'est vrai. Comment vous définiriez cette brasserie? Ça dure quelques années?
Ça fait 3 ans. C'est vraiment une cuisine de bord de mer, avec les pieds dans l'eau, la mer devant, avec au rythme des marées hautes et des marées basses, des approvisionnements de poissons au quotidien. Il y a 2 viandes, histoire de pas fermer la porte à ceux qui mangent pas de poissons ou produits de la mer. Mais sinon, on est vraiment au coquillage et crustacé, hein, plage ensoleillée.
Moules frites, plateau de fruits de mer. Il y a un fish and chips.
Il y a un fish and chips de poulpe, de haddock fumé, de cabillaud. Ça tourne. Et puis on a des poissons grillés à la braise, au feu de bois, donc ça c'est aussi...
Il y a du homard.
Voilà, le vivier c'est important. L'image de mon enfance quand on allait dans ces restaurants où on choisit cette bête vivante et et on l'honore derrière.
Et tout ça dans des prix hyper tenus. Mais c'est ça, en fait, qui fait sans doute votre succès, votre réputation. C'est que vous êtes un chef très exigeant, avant-gardiste, un grand créateur, peut-être bien, on le dit souvent, le plus doué de votre génération, à la Grenouillère. Et parallèlement, vous avez cette attention à l'égard d'une restauration beaucoup plus populaire, accessible au plus grand nombre.
Si j'avais juste la Grenouillère, on pourrait dire que c'est l'extra, mais l'ordinaire, c'est aussi important que le reste. Et si je veux appartenir à ce territoire qui m'a vu grandir, qui m'a aidé à grandir, et que je sois pas juste le garçon du pays, mais ce qu'il fait, c'est pas vraiment pour nous, il faut aussi que je m'adresse au quotidien. J'ai pas envie d'utiliser le mot clientèle locale, mais en tous les cas, à ces hommes et ces femmes qui habitent autour de moi. Alix, tout à l'heure, disait que les choses n'étaient pas mercantiles. Non, malgré tout, on est commerçants, mais ça ne doit pas être le premier sujet. Le premier sujet, c'est la cuisine. C'est comment on fait bon dans différents endroits. Et moi, j'ai envie d'être un cuisinier complet. Tous les sujets sont intéressants. On parle d'un croque-monsieur, d'un Welsh, d'un plateau de fruits de mer. Comment on ouvre une huître? Tout le monde n'a pas la même école d'apprentissage d'ouverture d'une huître. Moi, je suis un peu exigeant sur le sujet. et puis, on avance. Et à côté, il y a un laboratoire, pas expérimental, mais en tous les cas, où on défriche plus, qui est la Grenouillère. Mais j'ai le goût de l'autre. Et le goût de l'autre, il est multiple. Et donc, il faut aller s'adresser à lui, parce que comme un plateau de fromage, on n'a pas envie de manger toujours le même fromage. Et ben, les restaurants, c'est à peu près pareil. Et je pense que valoriser un territoire qu'on aime, c'est assez égoïste finalement, parce que je fais ces restaurants aussi pour moi. Je considère qu'à un moment donné, le café, on l'a fait parce que dans le village où j'habite, à Montreuil, il n'y a pas d'endroit vraiment. Il y a un bar tabac que je respecte beaucoup, mais avec mon petit garçon à l'époque qui avait 6 ans, avant d'ouvrir ce café, et on a bu un chocolat chaud devant ce mur de tabac, vous voyez, donc avec toutes ces images catastrophiques qui sont devant. Pour démarrer à 8h une journée, c'était pas terrible en termes d'énergie, et donc je trouvais que créer un endroit où on peut venir se perdre, passer du temps, et manger ou ne pas manger, en tous les cas, était important, et c'est pour ça qu'on a fait quelque chose sur la place de Montreuil.
Vous voyez à qui on a affaire, hein, cher public. Dans un instant, préparez vos mâchoires, on va déguster pour de bon, on va s'échanger, Alexandre Gauthier, nos cadeaux gourmands. L'occasion de faire venir à notre micro quelques goûteurs et goûteuses de notre public juste après Shy Girl de Holly Cook, choisi par notre programmateur Djoubaka. Vous êtes bien dans la masterclass d'Alexandre Gauthier sur France Inter. Alexandre Gauthier est l'invité de notre 9e masterclass sur France Inter. Alexandre Gauthier, j'ai eu la chance, je le disais, de regoûter votre cuisine à la Grenouillère, et dans un menu dégustation, il y avait quelques-uns de vos plats emblématiques. J'aimerais que vous nous disiez un petit mot de chacun des plats que je vais vous citer, sachant que vous avez fait la couverture il n'y a pas très longtemps, le numéro septembre-octobre 2025 de Yam, un magazine que j'aime beaucoup. Yam, des étoiles plein les yeux, qui consacre chacun de ses numéros à justement un grand chef ou une grande chef française. Blinis de lait entier, tourteau.
C'est ce qu'on qualifie de signature. C'est un plat qui fait la trait d'union entre le côtier et la ruralité. La Holstein fait partie des animaux domestiques, presque, on va dire, de nos campagnes. Cette vache qui produit beaucoup de lait. On fait un blinis de lait entier, qui n'est pas vraiment une peau de lait, mais quand même qui est une galette avec un tout petit peu de blanc d'œuf et un peu de farine de riz, mais qui a un goût de lait de ferme, réellement. C'est pas que de la crème, sinon ça serait indigeste. On le plie, mais à l'intérieur, surtout, on vient y mettre une chair de tourteau. On vient travailler au beurre, qui vient de la même ferme, de chez nos amis Gaëtan et Sophie. Et puis, finalement, on vient le renfermer. Et cette onctuosité, c'est quelque chose... C'est un plat assez particulier parce que finalement, il est sans contraste. Il est tout en douceur. J'ai une cuisine qui est plutôt tranchée, avec des vivacités. On travaille sur les amertumes, sur les acidités. Mais pas celui-là. Il vient à un moment donné...
Très confortable.
Très confortable.
Ce blinis de lait entier au tourteau, et c'est un plat prodigieux que j'ai goûté plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est une espèce d'électrochoc. Autre découverte tout à fait éblouissante. Terrine de feuilles d'épinards. Garum de homard. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image à la maison, ils sont très nombreux. On fait de la radio. C'est un parallélépipède monochrome, entièrement vert. Une exploration gustative avec un contraste de texture. Il date de quand ce plat, cette terrine végétale ?
C'est à quelques années quand même, parce qu'on a sorti en 2019 le livre, il est déjà dedans, 6-7 ans. Mais on ne l'est pas tout le temps, c'est toujours pareil. C'est que ces plats, ils vont vivre à la carte, ou au menu en tous les cas, entre 3 semaines et 4 mois. Et puis ils disparaissent. Et puis l'année suivante, ils vont revenir à une saison à peu près identique. Les feuilles sont grandes, un peu croquantes, les épinards qui ont un peu monté.
C'est un peu fibreux.
Il y a un peu d'épaisseur. Et dedans, on vient y mettre, on travaille tout épinard, mais comme aussi on travaillait un pâté en croûte quasiment tout végétal. D'ailleurs, on met un peu de tourteau. On met pas du tourteau partout, mais dans celui-là, voilà, on fait un flan d'épinards. Après, on fait une génoise vapeur verte aux épinards.
La texture mousseuse et humide.
Voilà, c'est ça. Et après, on vient mettre une purée d'épinards fumés qu'on vient lier avec du tourteau. Et tout ça enveloppé dans un millefeuille de feuilles. Enfin, c'est du boulot quand même.
Un boulot de construction, d'architecture. Incroyable, mais la sensation en bouche.
Ben voilà, la sensation en bouche. Et puis, j'aime ces produits où, moi, si j'ai un petit garçon qui a 13 ans, depuis ses 5 ans, il déteste les épinards. Ben, si ce plat peut l'aider à manger les épinards, ben, voilà, mais c'est surtout ça. C'est aussi manger du végétal et manger de la lumière et de la couleur. Ça, c'est vraiment ce plat-là, on mange de la couleur. Et ça, c'est intéressant.
Une autre question, Alexandre Gauthier, que François Simon, notre chroniqueur et mangeur masqué, a enregistré pour vous.
Alexandre, à quoi attribuer la désaffection du grand public pour la haute gastronomie ? Celle-ci n'est-elle pas allée trop loin dans son narcissisme et sa gentille mégalomanie ? L'heure n'est-elle pas une approche plus douce, empathique et finalement moderne ?
Il y a raison, hein. Je pense que je suis pas sûr qu'il y a un désamour, mais ce qui est sûr, c'est que notre génération travaille en menu unique. Et ça, je sais que François Simon n'aime pas ça. Et il a pas tort, finalement, c'est moi qui décide ce que les clients vont manger. C'est assez perturbant. Ils viennent dans un restaurant et ils ont de moins en moins de choix.
Je déteste qu'on m'impose un menu. Je considère que je vais au restaurant, je paye, je choisis ce que je mange. Après, il y a évidemment des exceptions dans les très grands restaurants. Le chef a véritablement un propos. Et donc, par conséquent, c'est déjà plus acceptable. Néanmoins, j'aimerais pouvoir me dire que je vais chez Alexandre ou chez d'autres en disant « je vais choisir ». Parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup, que j'ai très envie de découvrir sous la patte d'un chef. Il y a des choses que j'aime moins et que j'ai moins envie de découvrir. Ou peut-être des choses que j'aime moins et que j'ai envie de découvrir par un grand chef. Enfin, voilà. Avoir un choix, pour moi, c'est très important. Je rejoins François Simon sur ce sujet.
Mais je pense que aller au restaurant n'est pas tout le temps ou forcément à faire du gourmandise. Et donc, mais d'expérimentation, mais d'expérience, d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Si moi, vous me dites entrée plat dessert, ben, je ne suis pas sûr que je vous envoie à la Grenouillère. Parce que finalement, cet endroit, il est comme cette première gorgée de bière de Philippe Delerme. La première bouchée, c'est une découverte. La deuxième, elle confirme. La troisième, c'est déjà de la gourmandise. Et donc, à un moment donné, si on veut aller plus loin, il faut avoir plusieurs plats. C'est-à-dire qu'avoir plein de plats à trois bouchées, c'est pour moi essentiel. Après, il y a un schéma actuel aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est très dur aujourd'hui de tenir une carte économiquement. Parce qu'on doit avoir dans ses frigos de la matière première pour convenir à toutes ces lignes de carte. Et on n'est pas sûr que les clients vont aller tout le temps dessus. Si on fait un riz de veau et que les gens ne vont pas le manger, ne le mangent pas...
Ça fait des pertes.
Énorme. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas.
Allez, on doit enchaîner.
Pardon.
Vers notre... Non, non, au contraire, c'est des discussions très intéressantes, mais on a aussi envie de déguster, ça tombe bien, c'est l'heure du troc gourmand. C'est un échange entre nous de bons procédés et de bons produits. Vous nous faites goûter une surprise comestible, et en échange, on vous réserve une surprise. Alors, Samir nous a rejoint, Sandra nous a rejoint. Ah, c'est... des dégustateurs et dégustatrices que l'on connaît, Samir Ouriagli, évidemment, vous êtes intervenu plein de fois à ce micro pour nous parler épices, puisque vous avez fondé la marque Encore. Merci Samir d'être à nos côtés.
Merci de m'accueillir.
Et Sandra, vous avez fondé une chocolaterie, et quelle chocolaterie, vous êtes dans le Bean to Bar, c'est Plaque, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Merci.
Chocolat très, très haut de gamme. C'est Alexandre qui dégaine le premier.
C'est un challenge.
Vous ne dites rien, Alexandre?
Vous surprendre, je dis rien. Allez-y.
Ah, mais... j'adore. Moi, j'ai reconnu. Alors, déjà, petite description, Samir.
On a deux petites baies, couleur entre le noir, ouais, noir, marron, bordeaux.
Ouais,
il y a un petit noyau aussi.
Il y a un petit noyau, absolument.
Il n'y a pas de pépin, il y a un noyau.
Oui, il y a un noyau. Alors ?
C'est un peu salé.
Sandra ?
Ouais, on pourrait au début penser que c'est de l'olive, mais c'est pas ça. Mais je pense que c'est pour nous enduire d'erreur, comme on dit.
On pensait que c'est un raisin aussi.
Oui, mais le deuxième, moi, me fait penser à une prune ou une mirabelle, une prune.
C'est plutôt bien joué, parce que si j'ai bien reconnu fruit sauvage, on est dans cette famille.
De la prunelle.
C'est beaucoup plus salé, le premier.
Exactement.
C'est de la prunelle.
Qu'est-ce qu'il a dit, le Jérôme Gagnès?
C'est prunelle.
Mais il n'y a pas qu'en vin que vous y connaissez, alors?
Non, moi, je connais rien en rien, mais je fais semblant. Là, c'est un coup de bol.
Les prunelles sauvages, ouais. Qu'on a dans le jardin, qu'on a autour du restaurant, dans les remparts de Montreuil, et dans le jardin de la Grenouillère. Si on les cueille vives comme ça, elles sont d'une astringence, d'une amertume terrible. Et là, on les met au sel, dans un sel gris marin, pendant 3 jours, à l'air ambiant. Et on laisse faire une fermentation, elles vont transpirer un petit peu. Et après, on va venir les sécher. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans un linge pour retirer toute cette eau qui va partir. Et après, on les fait sécher une journée. Pas un déshydrateur, mais quelque chose avec une ventilation.
Du tanin, il y a du goût de noyau, Elvira.
Il reste un peu d'astringence, c'est un peu salin, il y a un côté un peu umeboshi japonais, quoi.
Mais c'est vrai, la liqueur de prune.
Oui. La liqueur de prune, ça prend l'arrière de la mâchoire, ouais.
Oui.
Très humechu, ouais, c'est ça, c'est cette liqueur, voilà. J'aime ce goût du noyau, finalement. C'est le noyau qui dégage un arôme délicat et en même temps puissant de la prunelle.
Il y a des vertus apéritives, on a envie de manger plus, ça ouvre l'appétit, je trouve.
Ouais. On peut le manger comme ça, mais nous au restaurant on en fait une pâte. Finalement on vient chercher, une fois que c'est comme ça, on vient en faire un petit condiment, ou après on peut mettre ça dans un cocktail ou quelque chose comme ça.
Sandra, accord chocolat prunelle, vous l'envisagez ou...
Oui, bah, bien sûr, parce qu'on peut aller chercher de l'acidité, on peut aller chercher du fumé, on peut aller chercher justement... ça m'a fait penser un peu à l'olive quand même, parce que ce sel et cette côté saumuré, et du coup il y a des accords avec le chocolat. Ouais.
Et on fait aussi de délicieuses liqueurs avec cette prunelle.
C'est pour ça que Jérôme l'a reconnu.
Le pas de charan.
Le pas de charan au Pays Basque.
Au Pays Basque, ouais.
Et une prunelle aussi en liqueur que vous faites, hein, à la Grenouillère, Alexandre.
On fait une recette de papa comme un vin de liqueur, comme un vin de prunelle qu'on met dedans, et après, où on fait des vinaigres aussi, on vient aromatiser des vinaigres comme ça avec les prunelles qu'on jette dedans.
Les prunelles d'Alexandre Gauthier. Vous êtes prêt pour notre surprise ou pas, Alexandre?
Avec plaisir.
À nous de jouer.
Je m'attends au mieux ou au pire.
Des verres à pied circulent autour de notre plateau. Samir, Sandra, Jérôme, Elvira, Alexandre.
J'ai une oxydation au nez. Ouais.
Comment vous définiriez la robe, Alexandre, la couleur?
C'est plutôt doré.
C'est très doré même.
Je ne vais pas vous dire que c'est miel, parce que ça serait un coup à se tromper, à être en plein dedans, mais quand même, il y a un côté un tout petit peu cire aussi. Ça pourrait être, soit c'est quelque chose qui part sur du hydromel, soit c'est quelque chose qui part sur une région plus jurassienne. Je vais goûter, je n'ai pas goûté encore.
Allez-y Alexandre, Sandra.
Moi j'ai déjà goûté, donc j'ai un peu triché, mais je ne suis pas hyper forte. Moi je trouve qu'il y a un côté noix, mais il n'y a pas du tout le côté sucré. Enfin sucré, je dis très simplement qu'on aurait pu penser à, peut-être au début au nez ou à la couleur.
Voilà. Une
on aurait
fraîcheur,
pu aller sur un sauterne. Et en fait,
c'est très sec, hein.
Ouais,
ça
très
vient.
Sec.
Moi les deux mots qui me viennent, effectivement, c'est Jura et fruits secs. J'ai les deux, mais j'arriverai pas à dire plus que ça.
Des notes épicées aussi, hein.
Je dirais savagnin, plutôt.
Ouais.
Oui. Parce qu'à la bouche, là, ça redresse au bon endroit.
Bon, bah là, Alexandre ne chauffe pas, il brûle.
Ouais, bien sûr.
Bon, vous avez déjà lâché le Jura. Savagnin, on parle du cépage. Ouais. Est-ce que vous pourriez lâcher le nom d'un domaine, ou d'une cuvée, ou d'une année?
Un domaine, c'est dur, mais soit chez Tissot, soit chez Macle. Château Chalon ou Arbois. Je triche un peu, j'ai 50% de mon sang qui est jurassien, donc, je dois l'avouer.
Est-ce que vous voulez le résultat des jeux, Alexandre? C'est une cuvée qui a été choisie par quelqu'un qui vous est proche.
Par Rodolphe.
Dans vos équipes.
Je m'appelle Rodolphe Pugna, donc sommelier à la Grenouillère depuis 8 ans maintenant avec le chef. qui m'a accueilli quand j'étais encore juste un jeune élève de la restauration. Et voilà, c'est une maison unique. On y est tellement bien qu'on ne veut plus en partir. On ne fait pas de vin, on est juste là pour le transmettre. Et donc, il faut que ça soit dans la même philosophie que la cuisine du chef. Le chef aime beaucoup le vin en plus. Et donc, c'est un vin du merveilleux Stéphane Tissot. Un vin jaune 2011. Donc, Stéphane avec Bénédicte, ils sont à Montigny-Zarsur. Stéphane, il fait 5 ou 6 vins différents, vins jaunes différents de terroirs. Là, c'est la Vasée 2011. Ça se boit soit avec un fromage, soit tout le long d'un repas, ou même juste pour se faire plaisir autour d'une table. Moi, j'adore ça. Pour être embauché à la Grenouillère, c'est peut-être la seule chose à aimer, c'est d'aimer le vin jaune, parce que c'est vraiment des vins qui sont incroyables. Il y a vraiment ces notes toujours de curry, de noix, très épicées, avec une bouche toujours très intéressante chez Stéphane Tissot. Il fait toujours des fins de bouche très fraîches, parce que souvent, les vins jaunes, c'est plein. Traditionnellement, à la Grenouillère, on fait des grenouilles meunières, et ça, avec la puissance de ce vin jaune, ça peut être magnifique. Donc, c'était un vin jaune 2011, la Vasée, de chez Bénédicte et Stéphane Tissot, à Montigny-Zarsur, 5 km d'Arbois, des très grands vignerons jurassiens.
Et un immense merci aux Tissot, ce couple de vignerons jurassiens qui vous offre cette cuvée exceptionnelle que vous avez globalement identifiée.
Merci.
Donc, bravo Alexandre. Un vin du Jura, voici une occasion qui vous est offerte. Cher Jérôme Gagnès, de rectifier.
Une erreur
une
lamentable.
Une belle grosse erreur que vous avez prononcée à ce micro.
Une consternante erreur. J'ai failli me pondre au rideau de douche en rentrant chez moi tellement j'étais marié.
Et on a reçu quelques messages d'auditeurs.
D'avoir raconté une ânerie pareille. J'ai confondu argile bleue et marne bleue.
Et oui.
Je fais mon mea culpa et mon acte de contrition aujourd'hui. Évidemment, les marnes bleues, c'est le grand terroir de Château Chalon. Ça donne naissance à ces vins oxydatifs exceptionnels que je bois régulièrement avec beaucoup de gourmandise, alors que Pétrus, ce sont bien des argiles bleues.
Donc à ne pas confondre marne bleue et argile bleue. On est un peu technique hein, dans la nature des sols, mais c'est intéressant.
Marne, pour ceux qui l'ignorent, on va considérer que c'est une espèce de millefeuille de calcaire et d'argile. Alors que les argiles bleues, ce sont des calcaires, des roches sédimentaires qui se sont dégradées et qui deviennent donc de l'argile. Ça ressemble à de la terre, mais c'est une roche. Et donc, on trouve ces argiles bleues à Pétrus, notamment.
Mais pas seulement. Voilà. Mais marne bleue, on retiendra que ça se passe du côté de Château Chalon.
Tout à fait.
Terroir sur lequel sont aussi les Tissot. Hein.
Exactement. Depuis moins longtemps que le reste, c'est une cuvée plus récente. Je salue la très grande qualité de cette Vasée 2011 de Stéphane et Bénédicte. C'est magnifique. Enfin, on pourra en parler des heures. C'est un très, très grand vigneron, ce Stéphane.
Pour notre public, ceux qui veulent tremper les lèvres dans cette cuvée, il reste encore un petit peu dans la bouteille. On poursuit notre entretien, Alexandre Gauthier, puisque vous avez établi des passerelles avec le monde des arts. Vous dialoguez même souvent avec les artistes. C'est le sujet de votre temps d'échange avec Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
Alexandre, vous êtes livré à une entreprise, on peut dire, hors du commun, il y a un an et demi. Pendant ce long moment de fermeture forcée de votre restaurant, entre le 6 et le 10 avril 2024, vous avez recréé un restaurant sous la forme, on peut dire, d'une expérience éphémère, immersive, dans un lieu particulier, un garage abandonné du 8e arrondissement à Paris. Une expérience imaginée avec un ami très proche, Julien Gosselin, que nos auditeurs connaissent sans doute. Il est directeur du théâtre de l'Odéon, metteur en scène notamment des Particules élémentaires de 2666 et tout récemment du très sidérant Musée d'Uras. 10 heures de spectacle qui viennent de se terminer, assez dingue. Une sorte de musée vivant et désacralisé autour de l'œuvre de Marguerite Duras que vous avez avalé d'une traite il y a quelques jours.
Exactement.
Comme ça, sans scier.
En intégrale.
En intégrale. Ensemble, avec vos équipes, vous avez imaginé une installation visuelle, sonore, gustative, ni vraiment restaurant, ni complètement pièce de théâtre. Il en reste ceci, un livre, hors les murs, qui n'est pas l'équivalent d'une captation d'une pièce, c'est vraiment une œuvre qui a été recréée. C'est une série de textes publiés pour l'occasion qui accompagnent donc la trace visuelle, photographique, très belle de cette expérience. Alors dans ce livre, il y a notamment un entretien assez passionnant entre vous et Julien Gosselin, qui évoque notamment ce qui vous unit. Et moi, ma première question était la suivante. Qu'est-ce que le spectacle vivant, le théâtre, et peut-être en particulier les spectacles de votre ami Julien Gosselin, provoque en vous ?
Toujours un émoi, une surprise, et en même temps une fragilité. C'est-à-dire qu'il y a cet acte répété qui doit rester vierge. Ça, c'est pas de moi, c'est de René Char, mais c'est ça, c'est cette capacité qu'on a au quotidien, l'envie et le devoir de créer de l'éphémère. C'est-à-dire que ce qui aura lieu aujourd'hui ne sera pas la même chose demain ou à des nuances près. Et Julien a une vision exceptionnel des textes qu'il va chercher, et il vous les envoie à pleine tête, et vous découvrez des œuvres littéraires en toute puissance, même, comment dire, avec une réalité augmentée, parce qu'il utilise beaucoup la vidéo. C'est très dur d'être dans son époque, d'être d'aujourd'hui, pour un cuisinier, et je pense que pour un metteur en scène, c'est pareil, parce qu'on part tous de vieux grimoires, ou de vieilles pièces, et moi de vieilles recettes, et malgré tout, être capable d'aller plus loin, de vieilles recettes, de mise en scène pour lui, et bah, tout ça est capable de faire table rase, et de lui-même inventer quelque chose de neuf. Et ça... Pour inventer du neuf, il faut prendre des risques, et cette part de risque est subjuguée.
Il écrit ceci, Julien. « Peut-être est-ce cela qui me relie le plus fortement à Alexandre. Cheminer, essayer de mettre en forme les fruits d'un mystère qu'il porte en lui-même, oser se mettre face à ce mystère-là.
Ouais. »
Vous ne diriez pas mieux.
Non, parce que finalement, on sait cette inspiration, ce goût d'avancer qui amène un mot créativité, on ne sait pas d'où il vient. Et c'est du travail, c'est sûr que c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Mais malgré tout, il faut quand même une certaine clairvoyance au milieu de tout ça, dans un flou. Il faut avoir une clairvoyance et assumer à un moment de dire, maintenant on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Nous, on vit avec des comptes à rebours en cuisine et ils ont la même chose en théâtre. C'est-à-dire qu'à midi, il y a des clients et à 19h, il y a des clients. Et eux... Quand le rideau se lève, il faut être prêt, quoi. Il faut connaître son texte, il faut que la technique soit opérationnelle. Et il y a entre 350 et 800 et 1000 personnes qui sont dans les gradins et qui attendent de tenir une promesse. C'est aussi toute la difficulté, c'est que vous dites des très beaux mots sur ce qu'on fait, nous, au restaurant. Le Julien a des articles dithyrambiques et mérités, vraiment, de son génie. Et en même temps, au quotidien, on doit tenir cette promesse face à notre public, face à nos clients. On leur a dit qu'il se passait quelque chose, derrière son rideau et derrière ma cuisine, et ben il faut qu'il se passe quelque chose, et ça nous engage, et donc jamais, l'humilité qu'on a, c'est que c'est jamais gagné. Et donc on doit être capable, au quotidien, de se remettre en question, et le doute, et je pense, l'inquiétude peut être la seule chose salvatrice et qui nous permet de continuer à avancer.
Il y a un sujet que vous esquissez un peu, toujours dans ce même entretien croisé, c'est votre sensibilité à l'artisanat. D'ailleurs, vous n'opérez pas une grande distinction entre art et artisanat, de la même manière que Julien Gosselin n'opère pas non plus. Qu'est-ce qui vous touche tant dans le travail artisanal ? C'est le temps long, la répétition de l'acte, l'humain derrière l'objet ?
C'est tout ça, c'est faire que la main, c'est le temps d'apprentissage, le temps de répétition et le temps de dépasser son propre sujet. Il faut une très grande maîtrise du répertoire, d'un geste, pour être capable de le dépasser, d'aller plus loin. Il y a une très belle exposition en ce moment qui est Richter en peinture sur Paris.
À la Fondation Louis Vuitton.
Moi, je considère que mes plats sont terminés quand on ne peut plus les retirer. C'est pas quand on peut rajouter, quand on peut plus rien tirer. Julien, je pense qu'il n'y a jamais rien de trop dans cette pièce. Alors, je ne suis pas critique d'art, mais quand même, quand on va là-bas, il n'y a jamais de superflu, il n'y a jamais un artifice en trop, c'est toujours une radicalité. Et cette radicalité, c'est ce qu'il y a de plus dur finalement. Parce que Soulage, je disais je vous dis pas de bêtises, plus la contrainte est forte, plus l'expression est importante. Mais cette expression importante, elle est dans le travail, elle est plus dure à aller chercher. Richter, il n'y a pas un geste de trop dans ces tableaux. Et donc, à un moment donné, cette main, il faut être capable de faire du figuratif, maîtriser le figuratif pour arriver à faire les plus beaux abstraits que le monde n'ait jamais connus.
Et est-ce justement pour arriver à cette épure-là que vous avez toujours un outil particulier dans votre poche ?
Je ne l'ai pas aujourd'hui.
Ça tombe mal, ou ça tombe bien plutôt ?
Je ne l'ai pas aujourd'hui. Ouais, en même temps, je suis en cuisine. Mais... Non, mais...
Qu'est-ce que vous avez toujours dans la poche ?
Non, j'ai toujours une cuillère.
Toujours ?
Ouais, quasiment. Je suis en cuisine parce que c'est le prolongement de la main et qu'il faut un outil pour aller touiller, goûter, mélanger et qu'on fait pas ça avec les doigts. Et que c'est dans l'instant, c'est dans l'ultime instant et qu'il faut le temps de chercher une cuillère dans le poids cuillère qui est des fois 1 mètre trop loin, 40 cm trop loin. Autant le dégainer de sa poche et avoir des réflexes.
Alors, à défaut de vraie cuillère dans votre poche, je vous offre aujourd'hui un livre magnifique consacré aux cuillères, qui s'appelle « Des cuillères et des hommes ». Alors, je n'ai aucun mérite, c'est notre attaché de production Fabrice Rivaud qui a déniché cette pépite, qui est une merveille. C'est un livre qui est sorti en 2012, magnifiquement fabriqué par les éditions des 5 continents, un livre de Serge Le Guénant, qui est consacré vraiment à un voyage autour du monde, à d'autres cuillères. Merci. Des cuillères de Sumatra, des cuillères du Zaïre. Ça commence par une superbe cuillère en buis cloutée de laiton, qui est une cuillère de noces bretonne. C'est à la fois un livre artisanal et un hommage à l'outil le plus simple, on pourrait dire, de l'humanité, magnifiquement illustré. Donc à défaut de vraies cuillères, des cuillères en page.
On donne à manger avec une cuillère, et voilà. C'est un symbole énorme.
Absolument, et je suis sûr que c'est un cadeau qui vous fait plaisir, des cuillères et des hommes.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Elvira pour ce temps d'échange. Parmi vos nombreux clients, Alexandre Gauthier, il y a de grands noms qui sont très attachés à votre restaurant et qui l'ont fait savoir. Je vous propose des petites devinettes. Évidemment, Alexandre, vous tenez votre langue. Qui a écrit ces phrases À propos d'Alexandre Gauthier, aller piocher des noms dans le monde de l'art. Première phrase, j'ouvre les guillemets. Ainsi, sans le proclamer, Alexandre fait en sorte que tout ce qu'il nous présente sur les assiettes s'élève vers le domaine de l'art.
Un indice, non ? Rien ? On se débrouille ?
Un écrivain franco-tchèque.
Milan Kundera.
Milan Kundera, absolument. Décédé en 2023, ouais. Et ce fut un habitué de la grenouillère, Alexandre.
C'est ce qui est incroyable dans nos métiers, c'est que ça nous ouvre des portes à des rencontres qu'on n'imagine même pas. Et Vera et Milan étaient des clients de papa, qui ne réservaient pas leur nom. Et un jour, il a oublié sous sa chaise le manuscrit de la plaisanterie. Et bah, mon père en a été le gardien pendant 24 heures. Et c'est là qu'il a compris que ce monsieur, cette madame qui était grand, élancé, avec un accent, était cet immense écrivain. On l'a eu pendant des années, on les a eu pendant des années, jusqu'à 3-4 ans. Voilà.
Autre citation. Alexandre Gauthier parle de son territoire, tout comme moi, dans mon travail. C'est un alchimiste fouineur qui court sans relâche vers ses propres risques.
Un autre indice aussi, François, on est...
Une grande artiste plasticienne française. Elle y aura.
Ce ne serait pas Annette Messager ?
Oui, ça doit être Annette, ouais. Annette, ouais.
Annette Messager, je vous le confirme.
Annette, elle connaissait la grenouillère avant moi, avant papa. Quand elle était enfant, elle venait avec ses parents. Elle est née à Berck-sur-Mer. Et c'est une amie, quelqu'un qui... J'ai une admiration sans borne pour elle. Et on se croise, je ne vais pas dire régulièrement, mais dès que je suis à Paris ou dès qu'elle a envie de monter sur la côte et se ressourcer sur sa plage, à Merlimont, elle est la bienvenue.
C'était un extrait de la préface qu'elle vous a consacrée hein, dans votre livre La Grenouillère aux éditions de la Martinière en 2019. Vous avez enfin accroché la fresque qu'elle a dessinée, créée spécialement pour vous, Alexandre Gauthier.
Elle est à l'atelier pour marouflage. Et oui, c'est une chance immense.
Une fresque d'Annette Messager va rejoindre vos petits salons qui ont été partiellement détruits par les inondations.
On a des fresques historiques qui ont 110 ans, qu'Annette a vues quand elle était enfant. Elle a intimement peut-être l'impression que ces fresques ont nourri son inspiration d'aujourd'hui. Et, voilà, et là, je lui ai demandé, quand on avait un trou dedans, je lui ai dit il faut ramener cette maison au XXIe siècle et aller au-delà de ce qui nous est arrivé. Est-ce que vous voulez bien participer, Annette ? Elle m'a dit, elle n'a pas hésité une seconde. Et donc là, j'ai la chance d'avoir une fresque qui sera installée avant la fin de l'année.
Dernière devinette, quel autre ami artiste a offert à Alexandre Gauthier une toile représentant un petit chien l'échouillant, les pieds enlacés d'un couple dans son lit ? Cette œuvre est accrochée dans votre brasserie anecdote.
Philippe Catherine, ça, non ?
Oui, tout à fait. Ouais, Philippe est venu tourner un film qui s'appelle Un homme heureux de Tristan Seguela à Montreuil. Quand on pose sur un film, ils sont là quelques semaines et on a pu sympathiser. Alors, aujourd'hui, Philippe, il est partout, donc c'est difficile de le croiser. Mais voilà. Et ce tableau, finalement, on a participé à un de ses vernissages. Mais c'est ma compagne, c'est Lizzie qui me l'a offert.
Ah ok, d'accord.
C'est Lizzie qui me l'a offert.
Vous aimez les chansons de Philippe Catherine, vous êtes un peu son frérot, Alexandre Gauthier.
Alors comme ça t'es plus mon frérot, on va quand même pas renouer là-haut, dans le grand pays blanc,
quand on aura 200 ans,
où on n'est pas sûr de trouver du blanc, et de la beuh pour parler comme avant. Non, rien n'est comme avant, ça change tout le temps, c'est ça qui est effrayant, non, désolé. Je sais que c'est des mots de daron. J'ai l'impression que tu me vois qu'en fraction, alors que je suis ton frérot.
Mais peut-être que c'est fou.
C'est pour la vie qu'on est des frérots. Ça peut pas se qu'éblo sans un mot. Qu'est pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on est. L'histoire des hommes bégaye.
Il est humain de tuer un homme, mais inhumain de ne pas lui dire pourquoi.
Je sais pas qui a dit ça. Je crois bien que c'est moi, à toi, frérot. Alors comme ça t'es plus mon frérot. C'est comme si on m'avait tiré dans l'eau, même pas en m'appelant. Putain, tu m'appelleras. Non frérot, c'est pour la vie qu'on est des frérots.
Alexandre Gauthier, le grand ambassadeur de la gastronomie des Hauts-de-France, chef de la grenouillère à la Madeleine sous Montreuil, est l'invité de notre 9e masterclass. C'est l'heure de passer derrière la plaque de cuisson.
Les masterclass dont va déguster sur France Inter.
Alexandre a enfilé son casque, il est derrière la modeste plaque de cuisson dont on va déguster avec quelques casseroles pour nous réaliser un petit tour de main. On vous a demandé, Alexandre, de faire rapide et simple. C'est la règle du jeu, hein. Tout le monde est passé par là, y compris vos prédécesseurs 3 étoiles. Qu'est-ce que vous allez nous préparer ?
Juste une poulet de coque et choule Bruxelles. J'aime bien travailler les produits qui sont justement un peu caricaturales, stéréotypés, et le choule Bruxelles en fait partie. Donc on les a effeuillés, on garde que les feuilles vertes, les feuilles vertes tendres. Ouais. Les feuilles abîmées, la première, on la retire, mais on va pas chercher le cœur du choule Bruxelles blanc. On a des coques, ça c'est quand même peut-être le meilleur coquillage qui existe, qui est quand même quelque chose d'incroyable, parce que aujourd'hui tout le monde mange des moules, et les moules sont devenus populaires, alors qu'avant, il y a quelques années en arrière, les coques, il suffisait de se lever le matin et d'aller à marée basse et ramasser, ça coûtait rien. Et aujourd'hui, ça coûte plus cher que les moules qui sont des moules d'élevage. Donc, de culture, peut-être pas d'élevage, c'est un peu pareil. L'idée, ça va être d'ouvrir les coques. Donc, je mets de l'eau, faire chauffer 1,5 cm d'eau au fond de la casserole. On laisse monter en température. Dès que ça frémit, on va jeter les coques dedans. Pas besoin de mettre de sel, la coque, elle est salée naturellement. Donc. Premier baillement, quelques secondes, comptez 20 secondes. C'est la meilleure façon d'ouvrir un coquillage. Hein. Et après, j'ai pris 3 herbes, donc 2 menthes différentes. Une menthe bicolore de notre tisanerie. J'ai ramené de la rue officinale, qui est une herbe très puissante, toxique si on en mange trop, mais là c'est juste pour parfumer. Et une menthe aquatique qui pousse dans le marais et qui amène une fraîcheur. Elle s'ouvre, les premières sont déjà ouvertes. Je vais y mettre tout de suite 2 feuilles de menthe. Voilà, je retire les premières. Faut pas qu'elles cuisent trop vite, trop. Hop. Voilà, ça c'est ouvert. Tout a baillé, vous voyez. Ils sont translucides, c'est cuit. Pas besoin d'aller plus loin. Hop, je retire, je vais prendre le jus. Je passe le jus sur une passoire. Après, je récupère les coques. Faut toujours se méfier qu'il n'y en ait pas une qui soit vaseuse ou sableuse. Ça reste des produits sauvages, donc il n'y a pas de vérité. Je mets un coup pour retirer le sable du fond de la casserole. Garder du sel au fond. Un morceau de beurre. Ça va monter tout doucement. Je remets dedans 2 tiers de menthe. Un peu de rue. La rue, ça met un peu de puissance. La menthe va amener de la fraîcheur. Le bouillon des coques. Et une belle poignée de choux de Bruxelles qui est posée dedans. Voilà. Donc là, je vais accélérer. C'est parti. Ce qui est intéressant, c'est ce côté fluorescent de la feuille quand elle arrive. Voilà. Et dedans, je vais remettre les coques. Alors, je mets quelques coquillages. Et j'aurais pu les décortiquer, mais vu qu'on n'a pas eu le même temps, mais sans décortiquer. Je vais pas manger la rue, donc je vais retirer. Vous voulez combien d'assiettes ?
Oh, une douzaine.
Une douzaine. On y retourne.
Et pendant qu'Alexandre dresse cette poêlée feuille de chou de Bruxelles et coque, un autre Alexandre nous a rejoint pour déguster. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Quel âge as-tu ?
13 ans.
13 ans. Peut-être bien le plus jeune dégustateur dont on va déguster alors. Tu es en quelle classe ?
3e. Dans un petit village au centre de la France, dans le Berry.
Tu avais entendu parler d'Alexandre Gauthier ?
Je ne connaissais pas du tout et j'ai appris à le connaître.
J'espère que tu n'as pas trop de problèmes avec le chou de Bruxelles ?
Non, non.
Coque, chou de Bruxelles par Alexandre Gauthier. Ah, c'est beau. Les assiettes sont servies. Honneur à Alexandre, 13 ans, notre jeune dégustateur.
Bah franchement, je connaissais pas du tout ce coquillage et cette façon de le faire. Et bah franchement, c'est super bon.
Elvira.
Ah, et puis surtout, je trouve que y a une correspondance entre du végétal et de l'iode. Les deux se provoquent une sorte de sensation décuplée, quoi. Puis c'est un jeu de texture aussi, cette coque... qui mâche bien,
très juteuse.
Et puis cette jeune feuille de chou de Bruxelles qui est comme ça, vert, pétaradant, presque fluo, c'est des textures, c'est un compagnonnage vraiment évident et génial.
Merci. Le chou de Bruxelles, il est toujours trop cuit. C'est tout le temps trop cuit.
Mais en fait, le chou de Bruxelles, c'est le malheureux légume de nos cantines scolaires, braisé.
Et on pense que c'est parce que le cœur est fondant qu'il est cuit. Mais quand le cœur est cuit, tout le reste est trop cuit. Donc c'est une catastrophe. Donc il faut mieux passer un peu de temps à l'effeuiller comme on fait des petits pois. Et franchement, ça met 30 secondes à cuire. Jeter comme ça dans une poêle, dans une casserole. Il ne faut pas en mettre de trop. Et un aller-retour, un peu de beurre, un bouillon. Là, on a pris le jus de cuisson des coques. Et voilà, on met une herbe dedans. C'est d'un seul coup, ça trouve de la fraîcheur. On trouve de la puissance gustative par la rue.
Des notes camphrées aussi.
Camphrées, ça c'est la rue. Voilà, c'est très intéressant.
Jérôme Gagnès, il se régale, il se lèche les doigts.
Donc jusqu'à présent, on me foutait la paix, donc j'ai plus... je mangeais mon assiette tranquillement. Bon, maintenant, je suis dérangé, donc il faut que je parle. Non, c'est très bon. Moi, il s'avère que j'adore le chou de Bruxelles, donc je suis très heureux. J'aurais pas l'idée de les feuiller. J'aime le croquant de la feuille, j'aime ce coquillage qui est absolument délicieux, qui est quasiment transparent. La cuisson l'a effleuré. Donc il y a beaucoup de douceur, en fait.
Oui. Et aucune agression dans
ce plat. Non, aucune agression, beaucoup de douceur. Le frais du végétal, et puis ces herbes. C'est là, en fait, la magie et le talent des grands cuisiniers comme vous, Alexandre, c'est d'arriver à mettre ce qu'il faut comme herbe. On la sent quasiment pas, et pourtant, on voit bien qu'elle a modifié le plat.
Elle garde la longueur en bouche. Ouais. C'est elle qui produit une longueur en bouche. Quelque chose qu'on garde en bouche.
Remarquable. C'est cette subtilité dans l'assaisonnement.
On finit avec une bouche fraîche, alors qu'on imagine qu'un chou de Bruxelles va éteindre, va être un peu, va manquer d'énergie, de dynamisme gustatif. Et finalement, ces quelques feuilles de menthe et de rue vont porter beaucoup plus loin la portée du plat.
Super plat, sur l'instant, à l'instinct. Alexandre, 13 ans, est-ce que tu as envie d'aller t'attabler chez Alexandre Gauthier ?
Ah bah là. Franchement, non, c'était super bon.
Oh ben, le message est passé.
On t'attend, ouais. On t'attend.
Et ben, Alexandre, 13 ans, est attendu à la Grenouillère, à la Madeleine sous Montreuil. Un grand merci pour ce plat magnifique, cher Alexandre.
Merci.
Le vin, on a vu que vous entreteniez une relation intime avec, et notamment avec les vins du Jura, puisque la moitié de votre sang, grâce à votre papa Roland, est jurassien. Le vin, c'est votre temps d'échange avec Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Alexandre, je vous fais goûter un vin qui forcément va évoquer quelque chose pour vous. Je vous laisse le goûter et nous en parler. Ça faisait longtemps que je voulais goûter ce vin. Votre venue me donnait l'occasion de prendre contact avec ce petit vignoble et ses vignerons. Alors,
ça se boit ou pas ?
Plus que ça même. Hein.
Ouais.
Je trouve qu'il y a une densité au nez et aux bouches qui n'est pas révélateur de la couleur. Donc, on s'attend à quelque chose de plus
fluide.
Ouais, c'est très fluide.
On a du gras.
Il y a du gras, ouais. Vignoble français est grand. Hein, donc,
il est très grand.
Il a même des territoires totalement méconnus.
Donc ça manque un peu de soleil.
En fait, in fine, ça n'en manque pas. À la fois par l'exposition, la géologie du lieu. Effectivement, factuellement, c'est pas un climat très solaire.
Ouais.
C'est un climat que vous connaissez bien.
Oui, c'est un climat que vous connaissez.
Est-ce que le sous-sol peut être sur le sol ?
Ah, c'est la trouée.
Exactement.
Ça peut être quelque chose comme ça. Ça
voilà.
Peut être...
Ouais, tout à fait.
C'est pas les vins de mineurs, c'est pas le mot, mais c'est les vignes qui ont été posées sur les terrils.
Exactement. À Haïcourt.
Charbonnet.
Le Charbonnet. Bravo.
Charbonnet.
On vous laisse apprécier le jeu de mots. Charbonnet.
Oui, bien sûr que oui. C'est en fait un vignoble qui date du début des années 2010, qui a été créé par Olivier Pussec et Henri Jamais. Henri Jamais, il est charentais. Olivier Pussec, il est originaire de Haïcourt, mais il est parti faire sa carrière de vigneron en Charente. Et puis, il avait envie de revenir un petit peu sur ses terres. Et il voyait dans ce terril une opportunité de faire du vin. Parce qu'en fait, ce terril, tout en haut, il y a 80% de pente. Accrocher des vignes sur ces sols de schiste et de grès carbonifère, ça le titillait. Et puis, donc, il s'est renseigné et il a créé ce vignoble. Avec l'aide du maire d'Haïcourt, qui était passionné par le projet aussi. Donc il y a 300 bouteilles qui sont en 2014, c'est très peu. Il y en a 1300 qui sont produites aujourd'hui, hein. Ça fait 10 hectos, ça fait 1000 litres. Hein. Donc ça reste une production qui est microscopique. Et quand j'ai goûté ce vin, j'ai été littéralement bluffé par la qualité de ce vin.
C'est bien. Hein.
C'est absolument délicieux. C'est un très joli chardonnay avec un élevage qui a été très bien conduit, je dois dire. C'est-à-dire un élevage bois qui est tout à fait discret. Et voilà un vin qui est vraiment très, très, très étonnant. C'est peut-être la renaissance d'un vignoble qui existait avant le phylloxéra, avant la fin du 19e siècle. Il y a véritablement là quelque chose à faire parce que c'est un vin de très belle qualité. Donc voilà, c'était un clin d'œil pour vous, cher Alexandre. Et votre rapport au vin du Jura, vous avez gardé une grande proximité avec ce vignoble ?
J'essaie d'y aller une fois par an. On a la chance d'avoir des amis vignerons qui viennent nous rendre visite. Et ça, c'est essentiel aussi parce que dans le nord de la France, on n'a pas de vignoble, on fait de la bière. Mais voilà, donc j'aime ces gens. J'aime ces hommes et ces femmes qui travaillent, on parlait de la main, qui travaillent la terre, qui en font des produits exceptionnels et un savoir-faire aussi avec un engagement environnemental et une transmission aussi, parce que c'est aussi des générations qui passent la main et ça c'est magnifique.
C'est sur cet hommage aux vignerons jurassiens que se termine notre entretien avec Alexandre Gauthier. Merci beaucoup Alexandre d'être venu jusqu'à nous.
C'est moi.
Pour découvrir votre univers, il y a la Grenouillère, évidemment, votre table étoilée à la Madeleine sous Montreuil. C'est une véritable expérience, sans doute l'une des plus éblouissantes, une immersion totale dans votre territoire, l'une des plus éblouissantes de France. Merci beaucoup Alexandre Gauthier. La semaine prochaine, cuisinez pour soi et seulement pour soi. C'est le thème que nous aborderons avec une certaine Elvira Masson, autrice du livre « Recettes pour un » aux éditions du Seuil. Encore merci Alexandre Gauthier et à la prochaine. Merci pour votre générosité. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.